nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Je vois, mais tout de même, on a surtout besoin, c'est le cerveau. Pas que pour des choses, pour la bouillie. Les yeux, il y en a plein les rues. Et regarde encore le papier, en haussant les épaules. Puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me demande pourquoi vous me présentez ça. Vous baissez sérieusement à Paris. Il n'y aurait pas votre prime de fin d'année. C'est très médiocre tout ça. La médaille d'or est pour Lyon. Vous vous rendez compte? Bon, passons. Puisqu'il est ici, et que vous en êtes occupé, je veux bien le prendre. Il ira à la clinique. Le directeur soupire et lui dit. Monsieur Dufour lui dit. Je ne peux pas faire mieux. Les yeux, la peau, peut-être les organes. Il est jeune et sans en bonne santé. Voilà, j'ai fini avec lui. Directeur dit, viens avec moi. L'enfant se lève et sortent tous les deux de la pièce. Le directeur lui dit, tu vas aller dans un dortoir et demain matin, je viendrai te prendre. Viens. Et il monte à l'étage. Le directeur le met dans un autre dortoir. Ouvre la porte, entre, il entre. Il y a une dizaine de lits et déjà 9 enfants. Le directeur lui dit, prends le lit qui est libre. Bien, je te laisse. Interdiction de sortir de cette chambre pour éviter que vous vous mélangez avec les autres. Vous avez été sélectionné. Vous prendrez vos repas ici. Allez. Et l'homme se retire. Didier ne sait quoi faire. Il va s'asseoir sur le rebord du lit qui est vide. Il demande, on va nous mener où? Un petit garçon chantant dans les 9 ans lui dit, je ne sais pas, mais moi ça me fait peur tout ça. Je crois bien qu'on va nous zigouiller. Dieu lui demande, et pourquoi? Garçon lui dit, parce que l'on n'est pas bon. Un petit blond dit, et pourquoi il nous tuerait? L'autre lui dit, tu as entendu? Ils veulent prendre nos cœurs. Ils veulent nous couper en morceaux pour nous vendre. Didier se souvient de ce qu'a dit M. Dutour et se dit qu'il a raison. Il leur dit, oui, c'est vrai, ils veulent nous tuer. Les autres leur disent, vous êtes fous, c'est interdit ça. Puis, on est des enfants, non? Didier lui dit, moi je ne reste pas ici. Jatin lui dit, et où iras-tu? Je ne sais pas, mais je ne veux pas qu'on m'enlève mes yeux. Il se lève et va vers la sortie. Il voit la porte, tombe en plein sur le directeur qui a le sourire aux lèvres et dit, alors, on veut jouer au petit pousset maintenant? Ce n'est pas bien ça. Pas bien du tout. Rentre dans la chambre. Il le pousse au milieu de la pièce et lui dit, reste tranquille, le repas arrive. Que feriez-vous dehors sans rien? Si, j'ai rien à manger. J'avais tout ce qu'il vous faut. Et il sort de la chambre. Les clés dans la serrure. Didier se dit, je ne veux pas rester ici une minute de plus. Vite, il va vers la fenêtre. Il voit qu'il y a des barreaux. Nous sommes prisonniers. Les autres regardent intrigués. Ils ne savent pas quoi penser. La porte s'ouvre. Sa femme de service, avec les chariots, avec elle-même, du souper fumant. Soupe au lard, bien chaude. Elle s'est mise au milieu de la pièce. Ouvre la gamelle. Une odeur envahit la chambre. Les enfants. Et horrifiés, oublient vite leurs craintes. La vieille. Leur dit, venez chercher. Et les enfants viennent prendre une écuelle avec une cuillère. Et vont manger sur le rebord de leur lit. C'est bon, ça leur fait du bien. Didier prend la sienne, va s'asseoir comme les autres. Il n'a pas faim. Son voisin a faim. Il a fini sa ration, il le voit. Tu me la donnes? Il a eu le temps. Qu'ils ont tous mangé, la femme ramasse les écuelles et sort de la chambre. Le ventre plein, une action ramollit les enfants. sauf Didier. Petit à petit, ils s'allongent tous sur leur lit et s'endorment. Même ceux qui protestaient contre Didier. Didier, qui lui n'a rien mangé, reste la tête froide et bien décidé à partir. Une heure plus tard, les enfants se sont endormis sur leur lit. Pas de bruit. Didier croit se souvenir que la femme de service n'a pas fermé la porte à clé. Décide d'aller voir. Sans faire de bruit, tout doucement, il se lève et va vers la porte. Touche la poignée, la fait tourner, la porte est ouverte. Vite, il sort de la pièce en refermant la porte. Le couloir est vide. Il descend les escaliers. Pas de bruit dans la maison. Il se dit que les autres enfants doivent dormir. Long du couloir. Descend encore les escaliers sans faire de bruit. Arrivé au premier étage, il entend des voix. Ce sont celles des adultes. Cela le fait trembler un peu, mais il faut bien y aller. Il descend les escaliers. Au rez-de-chaussée, il n'y a personne. Vite, il court vers la porte. Elle n'est pas fermée. Il sort. Il se trouve en un rien de temps dans la cour. Il fait grand jour, c'est le milieu de la journée. La cour est vide. Troupe de geôlier. Il va vers le portail et l'ouvre. Il se trouve comme par miracle dehors. Se sauver et du quel côté il était venu. Vite, il se met à courir en direction qu'il croit être celle de Paris. Vite, il se met à courir dans la direction qu'il croit être celle de Paris. Il court, n'ose pas regarder. En arrière, il a trop peur d'être poursuivi. Thank you. bout d'un moment, essoufflé, fatigué. Bien sûr, il n'a pas déjeuné et c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Il s'arrête un moment, s'assoit sur le talus. Non, il n'y a pas de bruit. Il se demande comment il a fait pour se retrouver dans ce néandre de parcours. Comment il a fait pour venir jusqu'ici. Prend sa route, gaillardement. Il a gardé sa petite casquette marine, la casquette de marin. Il se dit qu'il ne s'en est pas trop mal sorti de ce trafiquant d'enfants et continue sa route. Les heures passent, il marche de moins en moins vite et de plus en plus fatigué. Le soleil commence à descendre. L'herbe se fait de plus en plus rare. Le talus est de moins en moins haut et on voit de plus en plus près les maisons. Ce sont au début des maisons, petites villas, tristes. Des maisons, genre HLM. Le sol où il marche, monte et se met presque au niveau du talus. Il y a de plus en plus d'inondices. Continue à marcher, c'est de plus en plus lugubre. Les maisons se rapprochent de plus en plus. Il marche sur l'herbe qui devient de plus en plus rare. Puis, il n'y a plus que de la terre. Puis, du gravier. Puis, des bouts de pavé. Et du bitume. Les rails disparaissent. La nuit tombe. Tout d'un coup, il se retrouve dans une rue. Rue lugubre de petits immeubles de 3-4 étages sans sans âge, presque pas éclairé. Il n'y a personne dans la rue. Lier se dit qu'il a dû arriver à Paris. Il continue à marcher. Va de rue à rue. Et se retrouve, par hasard, sur les bords de Seine. Il s'est dit qu'il est retourné à son point de départ. Il fait nuit noire, puis froid. S'allonge sur un banc et, petit à petit, s'endort. Rêve noir. Le lendemain matin, il est réveillé par le bruit de la ville. Il fait plein jour, il a un peu froid et très faim. Il se lève et s'avance de l'autre côté de la chaussée, côté maison. Il n'ose pas demander quelque chose, de peur qu'il lui arrive la même chose que la dernière fois. Il continue à marcher, prend une rue. Se trouve sur une petite place populaire où il y a un marché. Il y va. Il y a du monde au marché, surtout des femmes avec leurs caddies. Didier voit tous ces fruits, légumes, fromages. L'odeur du fromage lui donne mal au corps. Le poisson aussi, et le poulet que l'on fait griller sur place. Qu'est-ce qu'il a faim? Qu'est-ce qu'il a faim? Il aimerait manger.
Que se passe-t-il?
Il regarde avec envie tout ça. Et ces gens qui achètent tout ça, comment faire pour manger? Il mangerait bien au moins une pomme. Oh oui, une belle pomme rouge comme celle-là. Personne ne veut lui en donner une. Pourtant, il regarde. Les passants avec des yeux suppliants. À force de regarder cette pomme, il en a des vertiges. Il regarde autour de lui. Et hop, la poche dans la main, il se met à courir. L'on crie derrière lui, ma pomme, ma pomme. Il court, 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 se faufile au milieu de la foule. Tout d'un coup, la pomme lui tombe des mains.
s'arrête pile, voit tout tourner et tombe à terre. Il perd connaissance. Il entend des voix.
Que se passe-t-il?
Que lui est-il arrivé? Il est malade? Non, il paraît qu'il a volé une pomme. On lui tapote la joue. Amenez-le-moi. Vers ma voiture. Il sent qu'on le soulève. Il aimerait se dégager, s'enfuir, mais il est trop faible.
C'est une gamine qui va
Tiens, va m'attendre. Tu viens?
Henri, que se passe-t-il?
Il a entendu du bruit. Il est déposé dans quelque chose qui semble être du cuir. Et il sent qu'une voiture roule. Connaissance. Il en a assez de tout ça. La maison course dans la nuit, des bras qui veulent le prendre, des visages haineux. Lait. Le noir. Et petit à petit, il se réveille. Voit du blanc, du beige, une odeur étrange. La vue devient de plus en plus nette et elle est nette. Il voit qu'il est allongé dans du blanc. Il y a des murs beiges, que tout semble doux et calme. Une agréable douceur lui envahit le corps. Il ne s'est jamais aussi bien senti. Il se demande où il est. Regarde autour de lui, voit une armoire de porte en bois, un petit bureau, une chaise, une table de nuit, sur les murs, des sous-verts anglais de scène champêtre. Le décor l'enchante. Tout à coup, la porte est ouverte et apparaît une femme grande, mince, bleue. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.